Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant. La presse. Au programme, éloge de la sobriété. Et le don de provoquer un malaise. Bonne écoute.
Éloge de la sobriété, un texte de Paul Journet, paru le 25 février 2023 dans la presse. En lisant l'équilibre énergétique de Pierre-Olivier Pinault, on réalise à quel point la transition énergétique pourrait aussi être une révolution du bon sens. Elle exige des changements à la fois radicaux et à portée de main, démontre le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Son nouveau livre est un modèle de clarté et de concision. En moins de 200 pages, il brosse le portrait énergétique du Québec, expose les enjeux économiques et écologiques et propose des solutions concrètes et applicables, à condition d'avoir la volonté de le faire. Les technologies requises existent déjà. C'est le train, le bateau, le vélo, la densification de milieux de vie, l'isolation des bâtiments et une consommation plus sobre. L'essai montre que de nombreux changements requis ne feront pas forcément mal. Se libérer de notre dépendance aux énergies fossiles améliorerait notre santé, diminuerait nos dépenses et réduirait le risque de conflit. Voici l'interview remaniée à des fins de clarté et de concision. Quand un politicien dépose un plan qui ne permet pas d'atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre, GES, il dit miser sur le développement attendu de nouvelles technologies qui feront le reste du travail. Est-ce justifié? Ces technologies font rêver, mais elles sont surtout utiles pour un gouvernement qui ne veut pas agir. On se dit, pourquoi bouger maintenant si on peut attendre quelques années pour faire la transition à un moindre effort? En ce sens, la technologie devient une alliée du statu quo. Elle sert aux élus qui ne veulent pas demander aux citoyens de changer leur mode de vie. Selon vous, les technologies les plus importantes, nous les avons déjà? Tout à fait. On a la bicyclette, la marche, le métro et le train pour se déplacer. Le train consomme près de 3 fois moins d'énergie par passager que la voiture électrique. Quelle devrait être la place de la voiture électrique dans la transition? On doit arrêter de croire qu'en électrifiant l'auto solo, nos problèmes vont se régler. Sur le cycle de vie, ces véhicules exigent beaucoup d'énergie. Il faut de l'aluminium, de l'acier, des minerais pour les construire. De plus, ils suivent la tendance des véhicules à essence en devenant plutôt gros. Ils requièrent aussi de l'électricité pour fonctionner. Et enfin, il légitime l'étalement urbain qui incite à construire plus de routes, plus de grosses maisons et plus d'infrastructures coûteuses. À cause de cet étalement, il devient aussi plus difficile de rentabiliser le transport collectif. Ce n'est pas le modèle à encourager. Mais la densification peut-elle s'appliquer en région? On ne peut pas tous habiter au centre-ville de Montréal, bien sûr. Mais la densification ne veut pas dire ça. Il faudrait plutôt créer des poches de population proches des services. C'est comme cela qu'on faisait au 19e siècle. Des villages se construisaient, par exemple, dans les Laurentides, autour de la gare de train. C'est un modèle qu'on peut appliquer dans des villes de différentes tailles. Parlez-nous de l'effet rebond qui explique pourquoi des nouvelles technologies ne réduisent pas notre empreinte écologique. Prenons l'exemple de l'ampoule. Les nouveaux modèles sont plus éco-énergétiques, mais comment a-t-on réagi? On en achète plus, ce qui annule le gain. Même chose avec les frigos. Ils ont diminué leur consommation de 50%, mais des ménages en ont maintenant 2 ou 3, comme s'il fallait en permanence garder 48 bières fraîches pour la visite. Enfin, il y a les voitures. Leur moteur consomme moins d'essence. Alors, on a construit des modèles plus gros, ce qui annule le gain. C'est ça, l'effet rebond. Le transport actif est-il une solution applicable en banlieue? Le vélo n'est pas pour tout le monde, bien entendu, mais on peut l'encourager. C'est meilleur pour la santé et pour le portefeuille. C'est absurde de se rendre au gym en voiture pour aller faire du vélo stationnaire. Autre chose à favoriser, l'autopartage. Les voitures sont stationnées 90% du temps. C'est du gaspillage. Il suffirait de subventionner un peu les opérateurs d'autopartage comme Communauto pour les aider à y développer une masse critique d'usagers et devenir rentable. On devrait s'engager dans un cercle vertueux où il y aurait plus de gens qui utilisent le transport actif et collectif, ce qui améliore le financement et donc les services, en plus de réduire l'argent allant aux routes, et ainsi de suite. Vous écoutez Éloge de la sobriété, un texte de Paul Journet, paru le 25 février 2023 dans la presse. Mais les gens disent aimer la liberté que leur procure leur véhicule. Un matraquage publicitaire hallucinant vend les véhicules comme une façon d'accéder à de grands espaces, à la liberté, à se rendre au sommet de la montagne en pick-up pour faire du skidoo. Mais cette prétendue liberté dépend en fait de la collectivisation du coût des infrastructures routières. Les routes ne sont pas gratuites. On le fait payer à tout le monde et ça coûte très cher, sans compter l'impact sur les écosystèmes. Vous écrivez qu'on dépense plus pour remplir nos voitures que pour l'éducation. Quand on inclut tous les frais, raffinage, taxes, etc., en 2019, le Québec a dépensé près de 20 milliards en pétrole et en diesel. Comme société, c'est difficile de faire pire. On n'investit pas cet argent. On le brûle littéralement. Et on s'endette aussi. Après le logement, le transport est la deuxième source d'endettement des ménages. Aux États-Unis, depuis 20 ans, les prêts automobiles ont augmenté plus vite que les prêts hypothécaires. On n'a pas de données pour le Québec, mais c'est probablement assez semblable. Chez nous, on sait que le transport représente 13 % des dépenses annuelles moyennes des ménages. Encore plus que pour l'alimentation. Si on est dépendant du pétrole, pourra-t-on s'en libérer si vite? Ou va-t-on continuer à en avoir besoin? La notion de besoin est intéressante. Il n'y a qu'un seul véritable besoin en énergie, se nourrir. Sinon, on meurt. Pour le reste, on peut s'ajuster. Et en alimentation, on peut faire mieux aussi. L'alimentation est responsable de 24 à 36% des GES mondiaux. On mange beaucoup de bœuf, qui émet 49,9 kg de GES par 100 g de protéines. Pour les légumineuses, c'est seulement 0,8 kg de GES. Si on mangeait un petit peu moins de viande rouge, on épargnerait de l'argent, on serait plus en santé, on gaspillerait moins d'eau et on réduirait le réchauffement du climat. Voilà une vieille technologie qui n'exige pas de véritables sacrifices, à part faire attention à soi. Exactement. Pour revenir au pétrole, la consommation n'arrêtera pas complètement. On voudra encore asphalter les routes, fabriquer certains produits en plastique et étanchéifier les toits, par exemple. Mais là encore, ce serait préférable de le faire sans prolonger les routes ni grossir les maisons. Devrait-on alors refuser les nouveaux projets pétroliers et gaziers? Ce n'est pas l'approche que je préfère. Sinon, on s'en remettra à d'autres pays comme la Russie, l'Iran, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et je ne veux pas leur donner plus de pouvoir. Je souhaiterais plutôt qu'on envoie des messages forts au marché, une éco-fiscalité dissuasive pour que les consommateurs cessent d'acheter du pétrole et que les investisseurs ne veuillent plus développer de projets. Comme hausser la taxe sur l'essence? Oui, mais ce n'est pas tout. Je pense aussi à limiter l'étalement urbain et à interdire le dézonage de terres agricoles. Nos cibles actuelles ne sont pas sérieuses. Regardez l'interdiction de vente de véhicules à essence à partir de 2035. Ça se fera déjà naturellement. Le gouvernement s'en vante, mais il ne change à peu près rien. Les pétrolières misent beaucoup sur la capture et le stockage de carbone. C'est une solution? Ça ne sert à rien de dépenser autant pour séquestrer les émissions d'un produit qu'on ne devrait plus consommer. Tous nos efforts devraient servir aux autres sources d'énergie. Au début de février, la pétrolière BP a écrit dans son rapport annuel que l'invasion de l'Ukraine et la nouvelle loi américaine anti-inflation vont réduire la demande mondiale pour le pétrole. Dans chacun des scénarios, le sommet de la consommation a déjà été atteint. Et la Chine? N'est-ce pas décourageant de faire des efforts quand on voit les émissions de l'Empire du Milieu? Nous sommes plus riches que la Chine. Nous polluons plus par habitant que les Chinois. Et nous sommes responsables historiquement d'une plus grande part des émissions mondiales de GES. On doit exercer un leadership moral. Si on ne le fait pas, ils auront moins de raisons de nous suivre. Et de toute façon, sur un plan strictement égoïste, la transition énergétique serait une bonne chose pour nous. On utilise mal nos ressources, on les gaspille, on s'appauvrit et on se rend malade. Pourquoi vouloir continuer comme ça? C'était « Éloge de la sobriété », un texte de Paul Journet, paru le 25 février 2023 dans La Presse. Le don de provoquer un malaise, un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 26 février 2023 dans La Presse. Vous connaissez la stratégie. Pour nous convaincre de faire un don, certains organismes nous postent des enveloppes remplies de petits cadeaux. Cartes de souhaits, stylos, sacs à emplettes, autocollants, calendriers, chaussettes, fleuries, plaques porte-clés. Peut-être avez-vous reçu un tel paquet de la Croix-Rouge canadienne, de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada ou de l'Association des amputés de guerre dans les derniers jours. La méthode ne date pas d'hier et les critiques qu'elle provoque non plus. À une certaine époque, ceux qui n'apprécient guère cette tactique marketing en dénonçaient surtout les coûts. Ils préféraient que leurs dons passés et futurs servent à la cause soutenue et non pas à l'envoi par la poste d'une ribambelle d'objets. Quand j'ai fait ma thèse de doctorat sur les collectes de fonds, il y a 20 ans, on me disait que c'était un enjeu depuis 20 ans, me raconte Sylvain A. Lefebvre, professeur au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'ESG UQAM. Aujourd'hui, des considérations environnementales s'ajoutent dans l'opinion publique. Car les objets nombreux ne sont pas toujours désirés et possiblement fabriqués à l'autre bout du monde. Un copain a d'ailleurs exprimé son inconfort en publiant sur Facebook une photo des cadeaux trouvés dans sa boîte aux lettres il y a quelques jours. « J'ai un malaise. Je viens de recevoir cet attirail gracieuseté de la Croix-Rouge canadienne qui me sollicite pour un don en m'envoyant une dizaine de documents, 2 stylos gravés en anglais, 2 cartes de souhaits et 1 sac. » Sa publication a beaucoup fait réagir. Je hurle devant tant de gaspillage. 9 feuilles pour me dire comment faire un don. Un calepin d'une 20aine de pages où je peux inscrire pour qui ou quoi j'ai de la gratitude chaque jour. De leur côté, en tout cas, ils ne semblent pas avoir beaucoup de gratitude envers notre planète, dit Ève. Cette méthode est une plaie à dénoncer. J'ai trop souvent reçu cette camelote. Je ne donne plus à l'organisation qui m'envoie ça pour soi-disant me remercier, a ajouté Claude. Cette réaction des donateurs ne surprend guère le professeur Lefebvre. Ce qui m'étonne, c'est que les organismes utilisent encore ces méthodes. À la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, on n'a pas souhaité aborder ce sujet en entrevue. Officiellement, personne n'était disponible dans la dernière semaine pour me parler. La porte-parole m'a plutôt suggéré de contacter l'Association des professionnels en philanthropie, AFP, et son président, Daniel H. Lanteigne. Celui-ci avait publié, en décembre 2022, dans la section « Débat » de la presse, un court texte sur le sujet. Il écrivait « Au bout du compte, les dépenses de papeterie sont rapidement remboursées par le simple fait que de nouveaux donateurs contribuent cette année et éventuellement dans les prochaines également. Une organisation philanthropique qui ne verrait pas à renouveler son bassin de donateurs en limitant ses coûts, c'est une organisation qui vivrait sur un respirateur artificiel. Soyez donc indulgents envers eux et permettez-leur d'aller chercher plus de financement. Je suis totalement en faveur de l'indulgence. Mais au moment où l'avenir de la biodiversité et de l'humanité impose des changements radicaux, ne doit-on pas réduire justement notre indulgence envers ceux qui polluent? J'ai appelé Daniel H. Lanteigne pour lui poser la question. Il constate, lui aussi, que le facteur environnemental est plus présent dans les critiques. Et il comprend le malaise de certaines personnes qui reçoivent des cadeaux. Est-ce que c'est encore la meilleure chose à faire? Je n'ai pas de réponse, malheureusement, ni de solution de rechange. Mais je peux vous dire que les organisations aussi se posent des questions. Elles se demandent comment évoluer. nous dit Daniel H. Lantaigne. La division québécoise de la Croix-Rouge canadienne fait partie de ceux qui réfléchissent à la question. D'ailleurs, des pailles et des sacs à collation réutilisables commenceront sous peu à être insérés dans les enveloppes de sollicitation, m'annonce la porte-parole, Carole Dussault. Si les organismes continuent d'utiliser cette stratégie qui n'est pas gratuite, c'est évidemment parce qu'elle fonctionne. Pas auprès de 100% des personnes, mais auprès d'un grand nombre de donateurs, affirme Carole Dussault. Entre 60 et 68% des ménages font un don après avoir reçu les items premium de la Croix-Rouge. L'envoi de cadeaux sert à financer les opérations courantes, ce qui inclut la formation des bénévoles. L'expert en philanthropie Daniel H. Lantaigne explique que les enveloppes surprises et leur contenu fonctionnent parce qu'on les manipule, on les regarde, leur contenu traîne sur le comptoir et on en fait le tri, ce qui demande un peu de temps. Ce n'est pas le cas des courriels qui peuvent être ignorés ou placés dans la corbeille en moins d'une seconde. Quand on touche à un produit, on est plus enclin à l'acheter. C'est un début de relation avec le produit. Un courriel, ce n'est pas un produit, on s'en désintéresse rapidement. Si on a une enveloppe dans les mains et qu'on a le courage de passer à travers les 9 papiers dedans, on a donné du temps d'attention et les fondations cherchent ce temps d'attention. Mais il faut respecter ceux que ça irrite. La Croix-Rouge soutient que ces envois sont encore très appréciés. D'ailleurs, si l'organisme se contentait d'envoyer des courriels, il ne pourrait pas poursuivre ses activités. Ce type de collecte de fonds est tellement essentiel à la survie des OBNL que rien n'est laissé au hasard. Tout est testé, dit le professeur Lefebvre. Les objets, les messages, les polices de caractère, les genres d'images et même les types de regards d'enfants sur les photos. On fait des tests dans certains segments de la population avec divers objets qui ne coûtent pas cher pour voir ce qui marche. Tout est bien suivi et monitoré, confirme Carole Dussault. L'an dernier, par exemple, un petit ourson en peluche a suscité un bond de 27% des réponses positives. Pour garantir que les envois sont correctement ciblés, dit-on, 400 segments de données uniques sont analysés. En ce qui concerne le coût de telles opérations, la Croix-Rouge jure que ce n'est pas onéreux. Le coût moyen de ces envois est de 1,61 $, en incluant la main-d'œuvre. Le travail est effectué par un sous-traitant dont l'identité est confidentielle. Il faut que ce soit super clair. Ce n'est pas une dépense ou des dons qu'on dilapide en mettant plein d'affaires dans une enveloppe. C'est un investissement rentable et justifié, résume Daniel H. Lantaigne. Mais, ajoute-t-il, ce n'est pas parce que ça fonctionne qu'il ne faut pas le challenger. Peu importe que ce soit cher ou non, François Forté estime qu'il est grand temps d'utiliser uniquement la technologie pour solliciter des dons. Ce retraité de 67 ans qui fait du bénévolat à temps plein donne aussi de l'argent à une série de causes qui lui tiennent à cœur. Certaines pourraient cesser de bénéficier de sa générosité. Je ne veux plus qu'on m'écrive. Tous ceux qui vont me solliciter avec du papier, c'est bien de valeur, mais ils vont me perdre. Je fais tous mes dons par Internet, nous dit François Forté, bénévole à temps plein. Tout ce qu'il reçoit est déposé illico dans le bac de récupération sans même être lu, ce qu'il trouve aberrant en 2023. Pour le bien de la planète, le moment est sans doute venu de passer à autre chose. Mais encore faut-il trouver un autre moyen de financement aussi efficace, car les besoins demeurent immenses et la concurrence entre les OBNL est vive. En attendant, les donateurs qui ne veulent rien recevoir par la poste devraient faire connaître leurs préférences aux organismes. Ceux-ci n'ont aucun intérêt à irriter leurs contributeurs et respectent normalement leur volonté. Au fait, comme la saison des impôts approche, n'oubliez pas de rassembler tous les reçus pour dons obtenus en 2022. Des crédits sont offerts par Québec et Ottawa. Statistiques sur les dons. Total des dons faits en 2020 au pays, 10,6 milliards de dollars. Nombre de donateurs, 5,1 millions. Dons médians au Canada, 340 dollars. Dons médians au Québec, 130 dollars. Dons médians des personnes gagnant 150 000 dollars ou plus par année, 820 dollars. Région où le don médian est le plus élevé au pays, Abbotsford, Mission, près de Vancouver, avec 930 dollars. Plus on avance en âge, plus on donne. Ainsi, 32 % des donateurs ont 65 ans et plus. C'était « Le don de provoquer un malaise », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 26 février 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visez-voix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.